transcende étudiante en sainte. Francis, d'accord. Et là, s'il vous plaît. Je suis dans ma blouse blanche, accordez-moi moins de 10 minutes, j'ai fini. Vous allez poser des questions, monsieur Diorioela, il va vous répondre. Je vous en prie. Pour l'histoire des grossesses indésirées dans le milieu studentil, j'attendais que les filles, les femmes ici, posent des questions sur, comment dirais-je, la santé de reproduction et surtout la planification familiale. Elles ont honte. J'ai dit à ma mère, le visage personnel, courage de demander. J'avais beaucoup répété le mot alcool, consommation d'alcool, consommation d'alcool, consommation d'alcool. Voilà, on m'a posé des questions que quand les filles prennent des pilules chimiques à longue durée, elles ne peuvent pas faire des enfants et autres. Maintenant, celles qui ne prennent pas des pilules, celles qui lient comme ça avec les méthodes naturelles, elles ne se contrôlent pas. Les garçons également, d'arriver à une certaine phase, des orphelins qui veulent mourir. L'acte est fait. Elle tombe enceinte. Maintenant, devant ce fait, c'est la fille qui est vue. Hein? Les garçons ne sont jamais investis. On dirait qu'elle est enceinte toute seule et il n'y a pas un responsable. Et les caprices de grossesse amènent la majorité des filles à abandonner les études et autres. Voilà pourquoi nous avons voulu parler de cela. Mutuelle de santé, sécurité, santé de reproduction. Pendant les années académiques, si personne n'interdit à l'autre de se satisfaire sexuellement, mais il faut se satisfaire d'une manière responsable. Responsable, même si vous n'utilisez pas les contraceptifs hormonales, chimiques et autres, vous pouvez utiliser les contraceptifs qu'on appelle les préservatifs pour vous préserver et continuer à fréquenter pour ne pas avoir de problème. Que vous, on envoie ici pour étudier. Vous enceintez une fille qu'on a envoyée pour étudier. Les parents mécontents peuvent renvoyer les filles. Les tuteurs refusent de vous envoyer les pensions et refusent de continuer à payer votre année académique. C'est une perte pour nous tous. Ça ne nous arrange pas. Il faut que vous adoptiez donc des comportements sexuels responsables. Ou soit la fille utilise les méthodes contraceptives pour un moment donné ou pendant les pilules du lendemain, si on sait que c'est les périodes de fécondité, ou soit simplement ayez vos préservatifs en poche, les filles, dans vos sacs à main. Quand le besoin se fait sentir, satisfaisez-vous d'une manière responsable.
Voilà, merci, on applaudit. Faisons la différence. Mutuelle d'assurance santé et une société d'assurance. Doit fonctionner et quel rôle les parents d'étudiants doivent-ils jouer dans ces projets?
Merci beaucoup pour cette question. Je vais insister sur le caractère non lucratif de la mutuelle. Ça suppose automatiquement, puisque concerne la société, il s'agit de dégager des bénéfices. Et vous savez, dans le monde, ce sont les sociétés d'assurance qui sont les plus riches. Ça veut dire que les primes, les cotisations que les assurés payent permettent de dégager un bénéfice que l'actionnaire garde. Dans le cadre d'une mutuelle, et surtout dans le cadre d'une mutuelle pour les étudiants, on parle de micro-assurance parce que vous êtes une des personnes vulnérables et vous vous mettez ensemble, non pas pour dégager des bénéfices, mais pour prendre en charge tout simplement vos soins, et ce qui veut dire que les cotisations que vous allez verser pouvaient être significativement plus faibles que dans le cas où vous allez pour vous assurer auprès d'une entreprise. Alors, sur cette base-là, comment une mutuelle fonctionne? Eh bien, il y a d'abord les membres qui cotisent un montant déterminé et qui attendent donc en retour que tout ce qui est dans le contrat, c'est-à-dire en termes de couverture, sont pris en charge par la mutuelle. Donc, toutes les dépenses seront prises en charge. Lorsque, à la fin de l'année, il se dégage que les cotisations sont supérieures aux dépenses, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ce cas, puisqu'il n'y a pas de partage de revenus, eh bien, ce qui se dégage doit pouvoir être réinvesti pour améliorer les prestations, pour élargir les prestations, mais aussi peut-être des décisions pourraient être prises pour que les cotisations des années à venir puissent être réduites, de sorte à ce que nous soyons toujours proches, nous arrivons toujours à couvrir les charges, mais qu'on ne constitue pas des bénéfices qui ne seront pas utilisés. Ces bénéfices, s'il y a une marge, ça doit être réinvesti au profit des assurés. Mais il se peut aussi qu'il y ait un déficit. À ce moment-là, le CNF étant un associatif, eh bien, vous allez, les cotisants, les membres vont devoir faire des efforts. Ou alors, ils peuvent chercher du financement pour couvrir le déficit qu'il y a. Ou alors, des années après, on va réajuster les cotisations de sorte que chaque fois, eh bien, nous soyons au juste milieu entre nos dépenses de santé et nos cotisations. Alors, quel pourrait être le rôle des parents? Nous savons que vous recevez, n'est-ce pas, votre couche de la part de vos parents. Les parents vous donnent juste ce qu'il faut pour prendre en charge le loyer, manger, aller à l'université. Donc, il n'est peut-être pas très évident, il y a des exceptions dans l'état exceptionnel, il n'est pas évident que l'étudiant soit en mesure de payer lui-même sa cotisation d'assurance. Ce que nous attendons des parents, c'est que les parents puissent s'engager à payer pour vous et que donc, en ayant payé, vous êtes directement assuré par la mutuelle et que la mutuelle vous donne une carte qui vous permet d'aller vers une clinique pour recevoir des soins, vers un laboratoire pour faire des examens, vers une pharmacie pour recevoir les médicaments. Donc les parents vont cotiser pour vous, vous aurez juste une carte. Bien évidemment, à la carte, on prendra toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de fraude, parce qu'on sait aussi comment ça se passe. Les sociétés d'assurance ont souvent à gérer les cas de fraude. On fera en sorte que chaque adhérent ait sa carte et que cette carte ne soit utilisée que pour nous-mêmes, pas pour d'autres personnes. Et donc, vous rendez, si vous avez des problèmes de santé, vous en rendez à la clinique. Dans les cliniques agréées, il y aura une liste de cliniques agréées. Vous vous présentez avec votre carte, on vous prend en charge. Si vous avez des examens médicaux, des radios, des scanners à faire, vous vous rendez aussi dans des laboratoires agréés. On vous prend en charge. Si vous avez des médicaments, on vous rendez dans des pharmacies et on vous prend en charge. Mais qu'est-ce qui se passe entre la mutuelle et ces services de santé? Eh bien, c'est la mutuelle qui va payer les prestations à votre place. Alors, je dis ça c'est dans le cadre de couverture totale à 100%, mais il y a, dans le concept de l'assurance, il y a deux paramètres. Il y a la franchise, c'est-à-dire le taux minimal qu'on vous demande pour ne pas qu'il y ait des abus. Donc on va dire par exemple, vous allez payer 10% au lieu de 100% de vos dépenses. Et il y a les plafonds, parce qu'on ne voudrait pas aussi que les dépenses pour une seule personne puissent faire que la mutuelle tombe. Et on va mettre plafond par année, par exemple 10 millions, on ne peut pas aller au-delà de 10 millions si vos dépenses de santé sur une année commence à dépasser 10 millions, c'est vous-même qui allez vous investir. Donc il y a ces deux concepts-là qui vont être étudiés pour votre cas. Nous sommes en train de discuter en interne et avec d'autres spécialistes sur ces questions-là. Donc une fois que tous ces problèmes sont définis, eh bien, ça se résume à la chose suivante. Vos parents payent, on vous donne une carte et vous avez à aller dans le service qu'on va vous indiquer, le service de santé qu'on va vous indiquer, et vous êtes pris en charge. Après, il y a des aspects techniques, je crois que je vais vous dire tout de suite, entre la mutuelle et les services du centre de santé, où on peut avoir des relations directes, tout comme on peut passer par le prestataire de cette société d'assurance spécialisée. Je voudrais peut-être qu'il développe de ce côté-là.
Merci, M. Doré. Alors, comment tout ça va fonctionner? Pour avoir participé à la création d'un dispositif de prise en charge médicale pour une population qui est aussi vulnérable que les étudiants et la population des retraités, la première question que je me pose, c'est où est-ce qu'on va trouver l'argent? Parce qu'on est tous convaincus de l'importance de ce qu'on veut mettre en place. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Et comment on pourra convaincre, n'est-ce pas, toutes les parties prenantes à mettre la main dans la poche? Et c'est là le vrai problème du contrôle. Donc, pour un dispositif comme celui-là, la première personne à laquelle on peut penser, ce sont les parents. Puisque ce sont les parents qui sont ceux qui financent les études. Ok, les parents sont les parmi les premières personnes à financer. Mais sont-ils capables de financer la totalité des frais médicaux de leurs enfants, même dans un système mutualisé? C'est pas sûr. Est-ce qu'il existe d'autres personnes qui peuvent mettre la main dans la poche? Et c'est là qu'on va penser à l'État. L'État a des programmes de prise en charge, en fait, de protection sociale. Et on peut inciter l'État, n'est-ce pas, à dire je ne peux pas laisser mes étudiants, n'est-ce pas, seuls, abandonnés. Parce que quand vous êtes tout seul, votre problème, personne ne le prend au sérieux. Mais dès que vous êtes 50 000 à être dans un système, même l'État, lui, au début, ne vous prenait pas au sérieux, va dire je ne peux pas rentrer à cette personne. On a également la chance d'avoir beaucoup d'organisations internationales. On a l'OMS, par exemple, qui veut dans le domaine de la santé, de façon générale. On a l'UNESCO qui veut dans le domaine de l'éducation. On a plein d'organisations qui peuvent être convaincues et mettre la main dans la poche. Donc, l'un des points forts qui est porté par M. Doré, c'est qu'en matière de financement, en plus des parents et aussi des étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui financent leurs études eux-mêmes, sans parents, n'est-ce pas? On a plein d'organisations, nationales ou internationales, qui peuvent être facilement convaincus et qui peuvent mettre de l'argent dans le fond, à condition bien sûr qu'on les rassure sur le fait que cet argent va être bien géré. Ça, c'est la première chose qu'on veut créer, c'est le prise en charge médicale. Et nous, au niveau de la Banque centrale, pour la prise en charge médicale des retraités, on a mis 20 ans. On a mis 20 ans pour trouver la solution. Parce que chacun dit non, 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 c'est la Banque centrale qui va payer, l'autre dit non, c'est vous qui devez payer. Et personne n'a compris qu'en fait, chacun doit mettre la main dans la poche. Même votre 1000 francs, votre 500 a de l'importance. La preuve tout à l'heure, 1000 francs fois 50 000 par mois, ça fait 50 millions. Et 50 millions, ce n'est pas rien pour prendre en charge la santé. Par contre, 1000 francs dans votre poche, ça ne sert à rien. Ça paiera peut-être quelques comprimés de paracétamol, ça ne paiera même pas. Donc, le premier aspect, c'est comment mettre en place un dispositif de financement. Et ça, c'est dans ça qu'on a vraiment besoin de votre soutien pour non seulement convaincre les parents, mais aussi convaincre vos amis et vos collègues. Ça, c'est très important. Le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qu'on veut prendre en charge? Et le deuxième aspect, il est très lié au premier, parce qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. On est d'accord? On ne peut pas vivre. Voilà. Donc le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qu'on veut prendre en charge? Et donc, il faudra définir un niveau minimum de prise en charge et voir si l'argent qu'on est capable de récupérer que les mains des mères soient prises en charge. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, M. Doré l'a dit tout à l'heure, c'est comment prendre en charge les gens de façon concrète si vous tombez malade. On vous prend en charge et que vous êtes pris en charge par le système, ça se passe comment? Ça, ce sont les aspects opérationnels et il y a plein de solutions qui existent. On ne va pas revenir là-dessus. Nous, basant au niveau de la Banque centrale, on a mis en place un dispositif qui fait qu'aujourd'hui, les retraités, il n'a même pas besoin de revenir vers la caisse de retraite, ni vers la Banque centrale parce qu'il a sa carte. Il sait dans quel hôpital il doit aller, il sait dans quelle pharmacie il doit aller, il sait dans quel laboratoire il doit aller. Donc, ça, est vraiment le dispositif doit bien le préciser pour dire comment tout ça se passe. Et puis après, deuxième, quatrième chose, c'est comment s'assurer que le dispositif soit viable. Parce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui, au bout de deux ans, tombe en faillite. Donc il faut mettre en place des mécanismes pour que ce système soit viable. Il faut mettre en place des dispositifs de contrôle et de transparence pour que toutes les personnes qui sont concernées continuent d'avoir confiance au système. Les personnes, c'est qui? C'est d'abord vous-même les étudiants. Il faut que la confiance dans le système soit au top tout le temps. Donc il faut de la transparence dans la gestion de cet argent-là. Il faut que les partenaires qui vont mettre de l'argent dans ce dispositif également continuent d'avoir confiance dans le dispositif pour qu'ils continuent à faire. Donc voici à peu près les quatre choses qui sont importantes. Donc le financement, comment prendre en charge le financement, quoi prendre en charge, comment prendre en charge et comment s'assurer de la viabilité et...
Voilà, merci. Pour vous dire le temps. On va poser la question encore à Yené Djoré, comme c'est lui le porteur du projet. Est-ce que ne craignez-vous pas des difficultés dans la mise en œuvre du projet et y a-t-il des mutuelles en matière d'expérience en Afrique qui peuvent être intéressantes pour vous?
Alors, est-ce que je crains qu'il y ait des... Oui, il peut y avoir des difficultés. Mais on ne craint pas des difficultés, on les affronte. On relève les défis. Et les défis, il y en aura. Les défis, il y en aura. Il y a déjà le défi de la sortie. Pour que le maximum d'étudiants comprennent les défis. Convaincre leurs parents à adhérer au mécanisme. Comme on a dit, c'est vrai, vous pouvez vous-même cotiser, ça vous sera bon. Pour la plupart, ce sont les parents qui vont pouvoir s'engager. Donc, le premier défi, c'est celui de la sensibilisation. Le deuxième défi, c'est celui d'obtenir tous les adhérents, les autorisations qu'il faut. Et là, nous devons pouvoir compter sur le soutien étudiants de leur bureau. Nous vont pouvoir compter aussi sur le soutien des consulats, des ambassades, des communautés tchadiennes qui vivent aussi le même problème, parce que vous êtes au sein de cette communauté. Et donc c'est ensemble que nous pourrons relever ce défi de pouvoir passer le cap des différents règlements, autorisations possibles. Je ne doute pas une seule instant que ces défis-là ne pourront pas être relevés. Après, tout ce qui vient, c'est la question de la gouvernance du système. Jésus l'a dit tout à l'heure, il y a la question de la transparence, la question du reporting, la question de la bonne gestion du réseau, le maintien de la qualité des prestations, la réponse aux préoccupations des étudiants en temps réel. Parce que pour les questions de santé, il faut être suffisamment proactif. Et donc, la problématique donc, d'une équipe qui soit à la hauteur d'une gestion moderne, d'une structure associative, qui recentre, qui pourrait prendre des dimensions, de grandes dimensions, très rapidement si le système grandit. Eh bien, ce sont ces choses-là. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en notre capacité collective à trouver des solutions pour mettre en place le système. J'ai confiance en ce que nous pouvons adopter des textes qui nous permettent de régler au fur et à mesure des problèmes, j'ai confiance dans notre capacité collective, en vous, à vos parents et aux autres acteurs, à innover, à gérer au quotidien toutes les difficultés qui pourraient se présenter. Du reste, il y a des expériences. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. José l'a dit, il y a un système pareil à la Banque centrale, il y a des systèmes de mutuelle d'assurance en Europe, ça fait peut-être plusieurs, peut-être il y en a qui existent depuis plus de 50 ans. Il y a des mutuelles dans certaines universités. Et donc, voilà, nous ne partons pas de rien. Nous avons toutes les expériences des réussites et des échecs sur lesquels nous pouvons tirer des enseignements pour construire quelque chose de robuste. Le plus important pour moi et pour l'équipe, c'est que nous ayons votre soutien, votre engagement à nos côtés. Parce qu'il s'agit, comme on l'a dit, on le répète, d'une structure associative. Ce n'est pas du business que nous voulons lancer. C'est sans vous, sans vos parents, il n'y a pas de structure associative qui puisse tenir. Donc c'est ensemble que nous pourrons aller de l'avant. Et je pense qu'au sortir de cette conférence, vous allez parler à vos camarades, vous allez parler à vos parents, et afin que dans les semaines à venir, parce qu'il s'agit de semaines, nous allons aller vite, il s'agit de semaines, dans les semaines à venir, que nous puissions concrétiser les premières étapes de ce processus.
Il y a une dernière question que je voudrais aussi poser au porteur du projet pour savoir quelles sont les prochaines étapes dans la tournée pour la mise en place de ce projet. Quelles sont les attentes pour les étudiants et la communauté tchadienne résidant au Cameroun?
Alors, je vais me faire compléter parce qu'ils sont tous membres de l'équipe. Donc, ce n'est plus un projet individuel, ce n'est pas un projet, c'est un projet d'une équipe. La technique est là. Alors, parlons d'abord de l'étape en cours. L'étape en cours, il y a deux processus qui sont en cours. Le premier, c'est celui de relever des informations via un questionnaire en ligne auprès des étudiants, mais aussi auprès des parents. Ce processus-là, on l'a lancé depuis plus d'un mois. Et on souhaitait avoir un échantillon minimal qui permet d'avoir des réponses robustes pour faire tous les calculs. Donc, comme vous pouvez imaginer, les questions d'assurance, c'est une question de gestion de risque, et donc de probabilité de tomber malade, de dépenser qui sont montants. Alors, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu suffisamment de réponses. Globalement, on est à près de 500 réponses sur un total de 100 000 étudiants. Nous imaginons qu'il s'agit de peut-être il y en a qui pensent que le questionnaire est long, il y en a qui pensent que peut-être ça ne les intéresse pas, il y en a qui pensent peut-être que c'est un circuit. À partir du moment où nous sommes devant vous, vous nous avez vu, nous avons discuté, nous espérons qu'au sortir de ces rencontres, eh bien, le taux de réponse, notamment au niveau du Cameroun, sera suffisamment élevé pour représenter effectivement les informations synthétiques de la population étudiantine du Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous en sommes encore à 100 réponses de la part des étudiants tchadiens au Cameroun. C'est très peu par rapport à ces 60 000 personnes. Nous avons un questionnaire pour les parents et nous souhaitons que vous puissiez envoyer à vos parents pour qu'ils répondent et qu'ils nous donnent des informations pour que nous puissions finaliser les aspects techniques de ce dispositif. L'étape qui va suivre immédiatement, c'est celle de la constitution d'une structure associative ayant son siège intérieur et qui va s'occuper de trois aspects. Le premier aspect qui nous semble important, d'ailleurs en rapport avec la problématique prévue par la scolastique, c'est la question de la préparation aux études à l'étranger. Tout parmi vous sont, et nous sommes heureux, sont très jeunes, sont peu préparés à affronter les défis d'une vie liberté. D'accord? Et il y a donc ce défi de pouvoir gérer, de pouvoir se gérer. Et donc la structure associative aura pour objectif aussi de préparer les étudiants à aller étudier à l'étranger. La deuxième aspect, c'est la vie à l'étranger. Donc, dans cette dimension, qui est à l'étranger, il y a la problématique de la santé, donc qui va être traitée par une mutuelle. Mais il y a aussi les autres aspects. On a parlé des questions juridiques, etc. Les questions de santé, de la reproduction, etc. Il y a les étudiants en détresse, on a évoqué le cas de ceux qui perdent leurs parents pendant qu'ils sont en études. Eh bien, toutes ces questions-là, dans un cadre associatif, on peut trouver des solutions. On peut, ensemble, vous êtes 60 000, vos parents, on peut considérer qu'ils peuvent être minimum 25 000. Donc, dans les deux ensemble, ils sont en mesure aussi d'adresser d'autres problèmes. Le troisième volet de la structure associative, c'est de vous préparer à l'insertion ou au retour au pays. L'insertion professionnelle ou au retour au pays. Et donc, avec des formations complémentaires, avec etc., qui peuvent vous aider à affronter la vie qui vous attend après les études. Donc, cette structure associative, on va la rentrer très vite dans les années à venir. Avec le parent et avec toutes les structures, y compris peut-être les associations, il faudra vraiment impliquer les associations d'étudiants et d'étrangers. C'est pour ça aussi que nous sommes là pour discuter comment la gouvernance de cette question. Une fois que l'association est mise en place, on va maintenant créer le fonds qui va recevoir donc toutes les compétitions des parents, des états éventuellement, des autres partenaires et tout de suite la prise en charge médicale, l'assurance médicale pourra faire bien. Donc, c'est une question de semaine, on a un agenda très chargé et nous espérons donc que vous allez répondre facilement aux questionnaires en ligne pour nous permettre de finaliser les choses et de passer aux étapes suivantes. Nous pourrons organiser une conférence à Djamena pour discuter de ces questions avec vos parents plus en détail, afin de les engager à aller de l'avance pour la mise en œuvre de ce projet. Je dis, je répète encore, nous ne sommes que des porteurs d'une idée. Nous sommes là pour partager cette idée avec vous. Nous serons avec vos parents pour partager cette idée. Et c'est ensemble, bien que nous ayons déjà avancé dans la vie, c'est ensemble que ce projet va se mettre en place et nous comptons vraiment sur vous dans le cadre de ce projet.
Voilà, merci M. Djolier, bien quand t'es là. Et si M. Djolier a un mot à dire, il va contribuer M. Djolier avant qu'on passe à la phase interactive.
Merci beaucoup. Je pense que je vais sur concernant les prochaines étapes. Les prochaines étapes, je vais de concrétiser tout ce qu'on a dit. On est très content de savoir que c'est une idée concerne tout le monde en tant qu'étudiant, en tant que parent. Et donc, la prochaine étape sera de concrétiser, de formaliser de façon légale ces choses-là. Et aussi de discuter avec les futurs partenaires, tels que l'État, tels que les organisations, dont la mission, n'est-ce pas, concerne soit l'éducation, soit la santé, qui serait le président. Donc, ce sera également l'occasion de structurer de façon concrète, parce que tout à l'heure, j'avais le contrat, dans un contrat d'assurance, en tant que contrat. Donc, on va préparer les contrats. Donc, le contrat pourra régir les relations entre les futurs assurés qui sont là et le fonds santé. Donc, il faut que le fonds santé lui-même puisse exister, de façon légale, et qu'il puisse également avoir ce mécanisme
et Voilà, on va passer à la interactive. On va prendre que trois questions, vu que le temps est parti. Voilà. Voilà, on va commencer cette question pour moi de ma question.
Merci. Bon après-midi à tous. J'ai une très pertinente question sur la mutuelle d'assurance santé. Mais avant cela, sous votre permission, je voudrais un peu, en quelque sorte, apporter un élément, en quelque sorte, un élément de réponse à l'exposé de Mme Coco. Vous savez, nous étudiants tchadiens ici au Cameroun, à un moment donné, nous sommes déjà fatigués. Je ne sais pas si je vais qualifier cela comme une chorale. Nous sommes déjà fatigués de la chorale. Et qui veut bien chanter envers nous? Vous ne sortez pas la nuit, vous ne cessez pas, habitez-vous à la vie d'habit, vous ne cessez. Le problème est là. Le problème est là. Qui parmi vous ici devant peut me montrer avec preuve qu'un étudiant tchadien a été décidé parce qu'il est parti voir, a été décidé parce qu'il est parti chercher, a été décidé parce qu'il a fait, a été parce que jamais les étudiants tchadiens, même pour moi, les vraies informations ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux. Venez nous rencontrer, on vous dira pourquoi nous mourons aussi au Cameroun. Moi j'ai les preuves parce que j'ai accompagné plusieurs étudiants tchadiens, le corps de plusieurs étudiants tchadiens à la mort et même enterré même ici au Cameroun. Donc cette question est très sensible et traiter cette question vraiment avec réserve pour ne pas vraiment nous encore penser plus. Je voudrais poser ma question concernant la mutuelle, parce que dans ma localité, j'étais membre d'une mutuelle de santé. Je connais déjà comment ça se passe, mais depuis vous parler de projet, j'ai entendu un mot, si ça se concrétise, je ne sais pas un mot sorti comme ça. Bon, la question donc de savoir est, en dehors de venir ici, vous écouter, en dehors de répondre aux présents, qu'est-ce que nous, on peut avoir à apporter pour que ce projet-là devienne donc une réalité. Merci beaucoup.
Merci, M. Thomas. Si vous pouvez garder le livre et donner une preuve sur la mort des étudiants. Juste une preuve.
Merci. Pourquoi les étudiants meurent ici au Cameroun? Premièrement, d'abord, plusieurs de ces étudiants font le travail de la nuit, le gardiennage. Et ils partent garder les maisons, les bancs, ils exposent. Vous passez, vous allez voir. À 1h, 2h, un tchadien assis dehors. Il est assis devant une banque. Et le voleur qui vient là, ils ne sont pas venus pour tuer un tchadien, ils sont venus pour tuer un vigile, qu'il soit tchadien ou camerounais. Et je vous dis, 80%, 70% des étudiants des tchadiens ici ont cessé de tuer le gardiennage et la moto. Quand on dit oui, il a été poignardé, soit qu'il y a un tchadien qui fait la moto. Et on l'a blessé pour arracher la moto et peut-être qu'il voulait se défendre. On l'a poignardé. Jamais le tchadien n'a été poignardé dans sa chambre. Je ne sais pas si vous avez des preuves pour le montrer. Soit il est sorti pour le garder, soit il est sorti pour aller faire la moto, il a fait l'accident. La vie qui est en équipe, il fait danse. Il a fait l'accident de l'autre. Mais tout ce qu'on vous demande, la prétendue ici, le système d'éducation au pays, on a tout ce qui est en
Le premier parlage,
Si nous parlons de ça, nous ne sommes pas très loin. Moi, je suis dit dans la diaspora avec moi. Je vis en Côte d'Ivoire, j'ai vécu au Sénégal, à Bouto, au Mali, 5 ans, j'ai vécu 4 ans au Niger, j'ai étudié moi aussi pendant plus de 7 ans. Donc, j'étais à bord. Donc, ne prenez pas mal les conseils qu'on vous donne. Ce sont des vécus aussi que nous voyons. De vrai, peut-être qu'il y a des particularités. Moi, je viens de Nigeria. Il y a un de chaque jour avec du DOS. Et vous savez, je suis arrivé à DOS en provenance de Maïdoubi. Je suis arrivé. On est venu me chercher comme patriote, est venu me chercher comme pour. Il m'a fait venir chez lui pour manger. On a mangé comme pour la veille du Congo. Et quand on a quitté, c'était déjà 21h, 22h, et on était en train de partir. Il témoignait, il regarde les gens, ceux qui sont, qui sont là, là. Ceux qui sont à Dios, ils vivent à Dios la nuit du soir. On fait un chemin, on rencontre, ah, t'as là on est. Ah, bonjour, ça va, tu vas tous les tchèques. La nuit, il y a plein de tchèques qui sont là, des jeunes tchèques qui sont à Dios. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Je ne parle pas de la situation, quand on parle de la question de la sécurité, on ne vexe pas. On parle globalement. Et à Dios, de manière générale, aujourd'hui, les étudiants, avec leur bourse, et c'est quand même aujourd'hui le système, ce n'est rien. Au Cameroun, c'est beaucoup d'argent. Et ils font la loi. Ils sortent la nuit. Ils se font agresser. Ils se font voler leur téléphone. Il y a eu des morts. Ils violent les filles. On nous parle des étudiants, on a parlé récemment, 6 étudiants sur 2 filles. Tout le voisinage était à des deux comptes. Quand on dit 10 étudiants tchèques. Ce sont des comportements qui existent. Quand vous allez dans les mains et que vous n'avez non pas un pouvoir, un casier, quand vous recevez vos bourses. Vous pensez que ça fait avec nous? Ça veut dire que vous avez de l'argent. Et c'est comme ça que le comportement à risque amène effectivement à ce que les risques se font. Quand je dis vous, je dis que, aussi j'étais étudiant, j'étais boursier. J'avais ça pour prendre une assurance plus que ce qu'il faut. Parce que j'étais boursier du gouvernement français. On est passé à côté des échecs. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis à relever. Quand on vous dit plus de 100 jeunes filles qui sont enceintes, ce n'est pas des statistiques, c'est des inventions. Est-ce qu'on vous envoie ici pour ça? Donc, la seule qui est là, nous qui sommes là, nous sommes pour nous préoccuper de nos jeunes frères, de nos patriotes. Et je suis d'accord que peut-être que nos diagnostics ne sont pas très corrects. Bien au contraire, des mais prenez aussi en compte un peu les conseils qu'on vous donne. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette problématique habituelle? Eh bien, commencez déjà à répondre aux questions. J'ai dit que vous êtes 60 000 ici, on a reçu que 100 réponses de la part des étudiants. Avec 100 réponses, on n'est pas, les chiffres ne sont pas fiables. Demain, quand on va appeler les grands soucis de justement, de pouvoir, en venant ici, discuter avec les présidents des associations et autres, eh bien, il y a des défis qui vont être relevés grâce à la collaboration qui va se mettre en place entre nous et les bureaux des étudiants. C'est cette discussion, cette prise en conscience des solutions qui sont possibles que nous recherchons et les passages que nous avons eus dans d'autres pays, nous réconfortent sur l'idée que, eh bien,